C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 2. Votre balado vino.
Salut tout le monde! Bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sénécal, votre animatrice, et je suis accompagnée de la sommelière Charlotte Ariel-Richard. Bonjour!
Bonjour!
Dans cet épisode, on vous apprend comment est-ce qu'on fait pousser des vignes à vino. Mais plus concrètement, on va apprendre le cycle de croissance de la plante. Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on le croit de la cultiver? Et on finit par vous faire découvrir les régions où on cultive le plus la vigne à vino. C'est parti!
C'est parti!
Ah, la vigne! La vigne! J'aimerais vous dire que l'épisode d'aujourd'hui est une biographie d'Avril Lavigne, notre princesse punk nationale. Mais non, non, vraiment désolée pour tous les fans qui nous écoutent. Lavigne, on parle bien de cette plante tant vénérée depuis des millénaires, de son nom latin, Vitis vinifera. Dans la mythologie grecque, il y a même une divinité, Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, qui est le dieu de la vigne, du vin et de l'ivresse. Donc, la vigne est un symbole fort, comme en témoignent de nombreuses fresques ou poteries du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Charlotte, que représente la vigne dans l'histoire et la littérature?
La vigne, entre autres choses, en fait, représente le symbole de la fertilité de la terre, de l'abondance en nourriture, récolte abondante également, de la vie, mais aussi de l'espoir.
Oui.
Mm-hmm. Parce que, est-ce que tu savais, Émilie, qu'il y a beaucoup d'allusions au vin et à la vigne dans la liturgie? Hein? Dans la Bible, dès les premiers instants, là, quand Noé finit par arriver sur un bout de terre avec son zoo là, complet, une des premières choses qu'il fait, c'est planter une vigne sur la terre.
Symbole de la fertilité,
exactement.
Comme tu as
dit. Et il y a aussi une autre histoire sacrée qui raconte que Moïse aurait envoyé des hommes pour explorer la terre promise à Canaan, soit la région qui englobe aujourd'hui l'État d'Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie et le Liban. Ben, au retour de la mission, ces hommes-là auraient rapporté une immense grappe de raisins, là. Une grappe miraculeuse, des raisins gros comme des balles, on comparait ça à des balles de tennis, mais ça n'existait pas dans ce temps-là, qui était le symbole de la fertilité et de la terre promise. Mais aussi, le plus près de nous, dans la conquête des nouveaux mondes, Jacques Cartier, dans son journal, a fait mention de la vigne. Et d'ailleurs, j'ai un extrait ici de son journal du 7 septembre 1534, quand il a nommé l'île d'Orléans l'île de Bacchus. Après que nous fûmes arrivés avec les barques aux 10 navires et retournés de la rivière Sainte-Croix, le capitaine commanda auprès l'édicte barque pour aller à terre à la dicte île. Et estant à la dicte île, la trouva pleine de fort beaux arbres comme chênes, ourmes, pins, cèdres et autres beaux de la sorte des nôtres. Et pareillement y trouvâmes force vigne, ce que nous n'ayons vu, par-ci devant et à toute la terre, pour cela nommâmes île de Bacchus. Cette île tient de longueur environ 12 lieues et moult belle à voir.
Quel bel extrait! Évidemment, c'était une interprétation libre signée Charlotte Ariel-Richard. Merci! Wow! Mais il semble donc que la vigne aussi, il y a de nombreux saints qui sont associés à la protection de la vigne. Par exemple, Saint-Vincent. C'est une fête très importante en Bourgogne. Le 22 janvier, il y a la Saint-Paul aussi, la Saint-Urbain. Le 3 juin, c'est la Saint-Morand. Donc, en priant Saint-Morand, le vigneron s'assurait de protéger ses vignes du gel et d'avoir une bonne floraison. Sinon, on retrouve aussi la vigne sur les représentations d'Adam et Ève. Et est-ce que vous sauriez me dire, ou Charlotte, pourrais-tu me dire si tu sais à quel endroit est-ce qu'on retrouve de la vigne dans les représentations d'Adam et Ève?
Ah oui, là, je te vois venir. Là, c'est pas sur les parties intimes qu'il y a aussi le... les feuilles.
Oui, ben oui, t'as raison. La vigne semble être un excellent cache-zoui-zoui, cache-pipito, appelez-le comme vous voulez.
Mais ça pourrait être aussi une feuille de figuier, non? Puis, en passant, là, c'est pas pour rien que la feuille de vigne est connue pour cacher les zoui-zoui. Parce que c'est là que ça se passe.
La fertilité. Ben oui, c'est vrai.
C'est en bas. Hein. Mais ça pourrait aussi évoquer, je pense, la puissance ou la force. Parce que on peut retrouver la vigne dans des armoiries ou dans les illustrations, les statues comme une couronne. Là. Mm-hmm. Alors là, le symbole pourrait aussi signifier plutôt le courage et l'endurance. Et ça, Émilie, c'est parce que la vigne est vraiment une plante résistante.
Pourrait-on en dire autant d'Avril Lavigne?
Tu veux-tu dire comme dans le sens qu'Avril Lavigne est fertile ou résistante à l'industrie de la musique?
Ben, je sais pas trop. Sans rien lui enlever de son talent, peut-être que cette chère Avril Lavigne tire plus de la symbolique du poisson d'avril que du Vitis vinifera.
Ouh, boum, boum.
Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, avant qu'on s'égare là, avec Avril. Lavigne est donc une plante très résistante. Pourquoi est-ce que tu dis ça?
Ben, en fait, la vigne, c'est une mauvaise herbe.
Une mauvaise herbe?
Oui, c'est comme le puissant-lit, ça pousse partout.
Tu veux dire qu'elle
partout.
Pousse comme la mauvaise herbe?
Oui, c'est ça. ça pousse partout, ça pousse dans n'importe quel sens, ça grimpe grâce à ses vrilles. Là, on le voit là, sur le bord de nos maisons, là, comment ça peut monter super haut quand ça veut.
Mais moi, quand je pense à un vignoble, je vois des rangs de vignes très bien délimités. C'est pas dans tous les sens, là, comme tu le dis, là.
Oui, parce qu'il y a une différence entre laisser pousser et cultiver. La vigne est facile à faire pousser, mais pas nécessairement facile à cultiver, comme les agriculteurs. Là, le viticulteur travaille vraiment très fort parce qu'ils sont dépendants de Mère Nature.
Aspirant chef, je vous demanderai de tout arrêter, s'il vous plaît. J'ai une annonce à vous faire.
Ne pas confondre la viniculture et la viticulture. La viniculture est la fabrication du vin, alors que la viticulture, c'est la culture de la vigne. Viti pour vitis, de son nom latin.
Oui, chef!
Oui, chef!
Et si on résumait la viticulture en quelques étapes claires?
Donc, la vigne a un cycle bien précis. À l'hiver, la vigne est en période de dormance. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la taille d'hiver. On vient couper les pousses de bois de la dernière récolte. On fait ça pour notamment contrôler la croissance de la vigne, mais aussi la qualité du raisin. Et puis, quand vient le printemps, ben, la vigne sort de son long repos et donne les premiers bourgeons. Vient la croissance par la suite des nouvelles branches qu'on appelle les sarments, puis la floraison. Durant l'été, les fleurs se transforment tranquillement en fruits et les raisins prennent tranquillement leur couleur, période qu'on appelle la véraison.
Okay.
Et puis là, quand le raisin atteint la maturité voulue...
Ça, comment on fait pour savoir si le raisin est prêt?
En fait, on sait que le raisin est mature quand il atteint sa balance idéale. C'est-à-dire que c'est quand le taux de sucre et l'acidité ont atteint un niveau d'équilibre. Et ça, on le mesure avec un réfractomètre.
OK. Donc, le réfractomètre, c'est comme un lecteur de glycémie pour diabétiques, mais pour les raisins.
C'est ça.
Donc, le raisin arrive à maturité. C'est là qu'arrive la récolte des fruits, les fameuses vendanges. Hein. On a tous un ami avec peut-être des dreads, un poncho péruvien qui a pris une année sabbatique du cégep pour aller cueillir des raisins. Est-ce que c'était ton cas, toi?
Je suis pas allée au cégep, mais je suis allée faire les vendanges en Italie. Expérience extraordinaire. Mais il faut pas s'imaginer que les vendanges, c'est un moment facile. C'est très le fun
faut
à faire,
fort.
Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Moi, quand je suis en Italie, il faisait très chaud. Là, on commençait à 6 heures du matin là, pour pas souffrir de la chaleur, puis on arrêtait vers 2 heures de l'après-midi parce que le soleil était trop intense. Là, il tapait. Mm-hmm. Il tapait trop. Puis c'était assez drôle, en fait, parce que moi, je parlais pas italien encore à ce moment-là. Puis des fois, j'avais de la misère à comprendre ce que mon chef de camp me disait. Mais en tout cas, c'était un très, très beau souvenir. Puis ensuite vient la fête des vendanges, là, qui est vraiment... Ah, c'est tellement excitant. Là, on boit le fruit de notre récolte. Là. C'est sûr que c'est le vin de l'année dernière,
ben
parce
oui,
qu'il n'est pas encore fermenté à ce moment-là. Mais
c'est une belle fête.
Oui, exactement.
Et ça, c'est une grande tradition, j'imagine?
Oui. En fait, les fêtes des vendanges, là, c'est issu d'une longue tradition qui relève de coutumes religieuses et profanes.
Puis ça se passe quand dans l'année, en général?
Donc, les vendanges, on les fait entre fin août et novembre dans notre hémisphère et entre mars et avril dans l'hémisphère sud, dépendamment de l'année, parce que ça dépend de la météo. Donc, on vient calculer, en fait, le degré jour, là, qui est, dans le fond, le total de jours d'ensoleillement qu'on a eu pendant le printemps et l'été. Puis aussi, c'est quand que la pluie va arriver, parce que si on récolte trop tard, puis que la pluie est allée sur les raisins, ça risque de diluer le goût. Et puis, si on les récolte trop tôt, peut-être que la baie de raisin en sera pas assez gorgée.
Puis j'imagine qu'avec les changements climatiques, ça doit changer la donne aussi pour les vendanges.
Oui, comme par exemple, cette année, en 2020, les vendanges en Bourgogne ont battu un record. Là. Ils ont vendangé début août. C'était dans les premières fois qu'on voyait ça. Donc, c'est ça, dépendamment de quand le raisin est prêt, là, on vendange. Donc, le beau temps est surtout important pour la récolte. Là. Si on sait quand la pluie arrive, là, le vigneron est toujours en train de regarder la météo pendant cette période-là là, pour vraiment savoir exactement quel jour on va récolter les raisins.
Ouais, météo média, faut doit pas se tromper. Là.
Non, c'est ça, mais on regarde peut-être plus des versions officielles d'Environnement Canada, genre de trucs-là, parce que puis ici, par exemple, au Québec, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des gelées hâtives. Là, donc, c'est un moment qui est vraiment très, très stressant pour le vigneron.
OK. Puis tu parlais de soleil et de pluie. Justement, je me demandais, c'est quoi les besoins d'une vigne? D'une vigne, est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de soleil, de beaucoup d'eau?
La vigne, c'est sûr qu'elle a besoin de soleil. Pour l'eau, elle n'en a pas besoin de beaucoup. On n'arrose pas une vigne. Elle va vraiment chercher tout ce qu'elle a besoin dans le sol,
comme tu
ses nutriments.
Dit, ça pousse facilement.
Oui, exactement. Puis en fait, plus une vigne est vieille, puis plus elle va aller chercher tout ce qu'elle a besoin profondément dans le sol. Les racines de vigne, c'est immense. Là, ça creuse jusqu'à presque à la roche-mère, là, j'exagère, mais quand même, là, ça va à plusieurs mètres dans le sol, donc c'est assez impressionnant. Puis il y a un concept aussi avec la viticulture qui dit que la vigne, en fait, plus on lui donne d'amour, en fait, moins elle va donner, elle va être trop vigoureuse, puis elle va moins donner d'énergie à ses raisins. Puis nous, quand on cultive la vigne, c'est ça qu'on essaye de faire, en fait, de diriger l'énergie de la vigne vers les raisins.
OK, donc, vous la faites souffrir.
Oui, presque. Mais on l'aime, là. On l'aime. Ben, on l'aime, okay. La vigne. Les vignerons l'adorent, là. Mais je pense que les vignerons, ils laissent beaucoup la nature s'en occuper.
Puis il y a différents types de sols selon le type de vigne aussi qu'on plante.
Exactement. On va venir planter différents types de cépages sur les sols les plus appropriés pour le dit cépage. Donc, on peut identifier différents types de sols. On parle des fois de sols argilo-calcaires, des sols sablonneux, des sols marneux, des sols kiméridiens. En fait, c'est intéressant d'étudier la vigne parce qu'au final, elle est tellement...
Liée à la terre.
Exactement, liée à son environnement, qu'on peut étudier tout ce qui tourne autour d'elle.
La géomorphologie,
exactement.
Les sols, tout ça.
Donc, dépendamment si un pinot noir, par exemple, est planté sur un sol de type argilo-calcaire ou un sol plutôt marneux ou calcaire, ben son goût va complètement changer.
Puis pour terminer avec le cycle de culture de la vigne, après les vendanges, donc on envoie toute la récolte au chai, qui est le bâtiment agricole pour le vin.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'on arrive aux étapes de viniculture. Et puis ça, ben c'est dans le prochain épisode.
C'est ça!
OK, maintenant j'aimerais faire l'exercice suivant. Supposons que je m'achète une terre et un chai dans le sud du Québec parce que j'ai gagné à la loto. Puis là, je voudrais me faire un vignoble. Par quoi je commence pour cultiver ma vigne? D'abord, où est-ce qu'on achète ça, des plants de vigne? Certainement pas chez Costco.
Non, en effet. Mais à moins que tu aies envie d'une vigne qui pousse sur le bord de ta maison, là, mais si tu veux vraiment ouvrir ton vignoble, tu peux aller chez quelqu'un comme Alain Bro, qui est propriétaire de AM Pépiniériste, qui est spécialisé en la matière ici au Québec, qui cultive différents types de clones. Mais sinon, tu peux aller à l'Université du Minnesota, qui vont te donner peut-être des boutures, t'en vendre là, plutôt. Donc, il faut vraiment aller chez quelqu'un qui
est spécialisé.
Exactement.
Mm-hmm. Puis là, ça prend combien de temps avant de pouvoir faire du vin avec les plants qu'on a achetés?
Bien, en fait, ça prend au moins 3 ans avant que la vigne donne des raisins. De qualité, oui, c'est mm-hmm. ça. Fait que de la plantation jusqu'à la première vendange, c'est 3 ans, mais 5 ans là, pour avoir un rendement acceptable.
OK. Est-ce qu'il y a une date d'expiration à un plant de vigne?
Bien, en fait, il y a des vignes là, qui vivent super longtemps. Il y a une vigne en Slovanie qui a 450 ans, là, puis qui donne 35 kilos de raisins par plant.
Est-ce que c'est beaucoup, ça?
35 kilos, c'est pas beaucoup. Là. Ça donne environ 35 bouteilles. On compte à peu près 1 kilo par litre de vin. Donc, okay. donc, c'est ça. Et puis, en fait, la vigne, par contre, si on a un vignoble là, que c'est notre gagne-pain, là, mm-hmm. la vigne a à peu près l'âge d'un homme. Hein. Ça peut aller de jusqu'à 80, 100 ans là, qu'elle a une production qui est acceptable. Puis en fait, il y a des mentions des fois sur les bouteilles qui c'est marqué « vieille vigne » parce mm-hmm. que là, on a des raisins qui viennent justement d'une vigne qui est allée creuser. Ses racines sont très, très loin dans le sol. Donc, elle donne des raisins qui sont... ça change un peu le goût. Là. On a des raisins qui sont un peu plus riches, un peu plus complexes. Donc, voilà.
C'est donc à la discrétion, au choix du vigneron Exactement. De remplacer ses vieilles vignes ou pas.
Il y a un mouvement, en fait, de vignerons qui veulent garder justement ces vieilles vignes-là en signe de patrimoine. Puis, dans le fond, ils acceptent de diminuer leur rendement par hectare, par vigne. Donc, c'est sûr qu'ils font peut-être un peu moins de sous ou si c'est des grands vignerons, ils se permettent de vendre un peu plus cher ces genres de bouteilles de vin-là pour faire un peu plus de profit parce que sinon, c'est un moins bon rendement que les jeunes vignes là, bien vigoureuses là, qui donnent plein de kilos. Donc.
On en arrive maintenant à notre question du public. J'ai ici... une question de Manon de Mirabel qui nous demande « Quelle est la différence entre un vigneron et un viticulteur? »
Alors, un vigneron, c'est quelqu'un qui va faire le vin et un viticulteur, c'est lui qui cultive la vigne. Souvent, on associe le vigneron aux deux. Souvent, le vigneron, c'est un artisan qui va et être un viticulteur et un maître de chais, donc une personne qui fait le vin. Et le viticulteur, quant à lui, ne s'occupe que de la vigne.
Bon, ben c'est clair. J'espère que pour Manon, c'était clair aussi. Et on est chanceuse. On a reçu une autre question très pertinente de Jean-Guy de Rosemère. Ici, il nous explique « J'ai des raisins dans ma cour, pas très sucrés, point. Ma femme ne les aime pas, point. Mais moi, oui. Est-ce que je pourrais faire du vin avec? »
T'étais-tu en train de lire un...
Un télégramme?
Stop! Mais oui, en fait, c'est possible. Alors, cette vigne sauvage-là que Jean-Guy a dans sa cour, c'est probablement du Vitis riparia. Donc, en fait, le Vitis riparia, c'est la seule vigne qui pousse à l'état sauvage au Québec. Il y a des gens qui font du vin avec cette variété-là, mais ça risque de tirer plus sur le jus que sur le grand cru. Donc, ça va probablement vous donner un bon jus de soif là, à boire à tous les jours là, sans problème.
OK. Bon, ben merci. J'espère que c'était clair pour vous, Jean-Guy. Il faut savoir, d'ailleurs, à ce sujet-là, qu'il y a une différence entre les raisins de table et les raisins à vin. Hein. Comme les pommes, il y a des McIntosh, des Gala, des Cortland. Chacune a un goût, une couleur différente, une texture, pousse mieux dans certains climats et tout. Donc, c'est la même chose pour les raisins à vin.
Mm-hmm.
On appelle ça des cépages. Et on pourrait pas, par exemple, on pourrait pas faire un vin de qualité avec des raisins Del Monte.
Oui. En plus du Vitis riparia, il y a aussi le Vitis labrusca, mais reste que la vigne la plus qualitative, c'est le Vitis vinifera. Et on a aussi créé des hybrides pour créer des variétés plus résistantes.
OK, maintenant j'ai une question à 100$.
OK.
Est-ce que c'est la vigne qui fait le vin ou c'est le terroir qui fait le vin?
Ah! Les deux, Emily. Ce qui est le plus intéressant avec la vigne, là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut étudier, par exemple, la morphologie des sols, le climat, etc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la vigne, elle reflète son terroir dans ses raisins. Et puis, c'est pour ça, en fait, qu'on est capable d'identifier par la suite les différentes origines du vin. Parce que si on a un climat, par exemple, qui est plus chaud, si je reprends l'exemple, par exemple, du pinot noir qui est planté sur le même type de sol, par exemple, deux types de sols argilo-calcaire, si on se retrouve dans un climat climat plus chaud ou un climat plus frais, l'acidité va changer dans le vin, par exemple. On va avoir des tanins qui vont être un peu plus serrés ou un peu plus doux en bouche. Donc tout dépendamment de où on est sur la terre, le cépage va se transformer dépendamment du climat, du sol sur lequel il est planté.
Justement, c'est quoi les terroirs où pousse la vigne? Quels sont les pays, quels sont les plus grands pays producteurs?
L'Espagne, l'Italie et la France se partagent la première place. Dépendamment des années, ça va changer. Mm-hmm. Et puis, ces trois pays-là, en fait, se partagent la moitié de la production viticole. Ouais. Mondiale. Donc, mais on voit aussi des pays émergents, là, comme la Chine, par exemple, qui plante de plus en plus de vin. Et c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'ils font. On n'a pas beaucoup de vin chinois à la SAQ, mais si vous avez la chance de mettre la main sur un de leurs Cabernet Sauvignon, c'est quand même chouette qu'est-ce qu'ils font.
Au fond, les vignerons vigneronnes. C'est comme nos dieux du vin à nous, à nos Dionysos. Mais ce que je me demande, c'est s'ils portent en secret des couronnes de vigne ou des culottes avec des feuilles de vigne dessus. Non, tu penses pas? Mais en tout cas, moi, je suis allée voir sur Internet, là, parce que j'étais très curieuse. Et ça n'existe pas, des bobettes avec des feuilles de vigne qui cachent les parties intimes. Alors moi, je pense qu'on vient d'inventer quelque chose. Ça pourrait devenir notre produit promotionnel. Si vous êtes pour mon idée, écrivez-nous.
Sinon, on va en stiquer au balado.
Oui. En tout cas, on les remercie, nos vignerons, nos dieux de la vigne. Et comme offrande, ben pourquoi pas essayer d'acheter local. Encourageons les vignobles d'ici. Essayez quelque chose cette semaine, un vin québécois. Et ben écoutez du Avril Lavigne en même temps. Et j'en arrive à répondre à la question quiz de l'épisode précédent qui était « Combien y a-t-il de vignobles au Québec? » La réponse...
Selon le Conseil viticole du Québec, on comptait 134 vignobles en 2019. Ça inclut les vignerons qui possèdent au moins un hectare de vigne.
Et la question quiz pour le prochain épisode. Charlotte, à toi l'honneur, grande prêtresse du vin.
Ouh, j'aime mon nouveau titre. D'après vous, quel est le pourcentage de vin blanc et de vin rouge produits au Québec? Et quelle est notre consommation de vin québécois en litres?
Bonne question. Si vous voulez savoir la réponse, écoutez notre prochain épisode. On vous laisse là-dessus. Merci tout le monde. Si vous avez des questions pour notre sommelière Charlotte, des commentaires, des propositions, ben n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par courriel. Merci tout le monde. À bientôt et bonne dégustation.
Ciao.
Bye bye.
Après que nous fûmes arrivés. Attends. Là, Charlotte, c'est genre quartier quand même. Après que nous fûmes arrivés avec les barques au dix navires et retournés de la rivière Sainte-Croix.
Émilie, sois sérieuse.
Excuse-moi.
Après que nous fûmes arrivés avec les barques au dix navires et retournés de la rivière Sainte-Croix, le capitaine commanda après les dictes barques pour aller à terre la dicte île, voir les arbres qui semblent...
Veux-tu que je sorte? Je vais sortir.